France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le vendredi 26 mars. Bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Hélène Roussel, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, pas de mea culpa, pas de constat d'échec. On a bien fait de ne pas confiner jusqu'ici. Emmanuel Macron, hier soir, assume donc sa stratégie malgré la flambée de l'épidémie. Le président prévient en revanche, il y aura de nouvelles mesures dans les prochaines semaines. Et sans tabou, les autres titres, Hélène.
Trois nouveaux départements sur la liste rouge, le Rhône, la Nièvre et l'Aube. Interdiction de dépasser les 10 km autour de chez soi ou de sortir de la région. Mais les écoles restent ouvertes. Syndicats, politiques, épidémiologistes s'alarment. On va dans le mur, vous l'entendrez. Et puis aussi reportage avec des inspecteurs du travail pour voir comment les entreprises respectent le télétravail. Joe Biden, première conférence de presse à la Maison Blanche hier soir. Et puis grand soir, gros défi. France-Écosse, les Bleus seront-ils sacrés? Dernier match du tournoi destination, il faudrait 21 points d'écart.
Invité de France Inter ce matin, 7h45, hommage à Bertrand Tavernier. Avec Eva Bétan, nous recevrons l'actrice Isabelle Huppert et l'ancien président du Festival de Cannes. J'ai nommé Gilles Jacob. Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'avocat et désormais membre de l'Académie française, François Sureau. Il publie Ma vie avec Apollinaire et une réédition de la chanson de Passavant chez Gallimard. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Le variant britannique, un avis de tempête au cœur de la troisième vague. Plus de 45 000 contaminations hier, 1 000 000 de morts en une semaine. Une fin de mois de mars chaotique, scénario prévu pourtant par les membres du conseil scientifique dès la fin janvier. Mais ni remords, ni regrets. Emmanuel Macron hier soir après le sommet européen en visio, sur le perron de l'Elysée, droit comme un i.
Est-ce que le 29 janvier nous aurions dû confiner le pays? Comme certains le disaient, comme des modèles montraient que nous allions flambé en février. Non. Et donc, je peux vous le dire, nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Donc, je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire. Le zéro virus n'existe pas, il n'existe dans aucun pays de l'Europe. Nous ne sommes pas une île. Et même les îles qui s'en étaient protégées, parfois, voient ce virus revenir. Mais nous considérions que, avec les mesures de couvre-feu qui étaient prises et les mesures de freinage qui étaient les nôtres, nous pouvions faire face sans qu'il y ait de flambée. C'est ce qu'il s'est passé.
Sauf que la flambée est bien là aujourd'hui. Alors va-t-on vivre à nouveau confiné strictement après l'avoir repoussé, contourné? Emmanuel Macron a tout l'air de préparer le terrain. Il y aura de nouvelles mesures dans les prochaines semaines et sans tabou, dit-il hier soir. Quoi qu'il en soit, rien ne bouge pour l'instant, ou presque. Le Rhône, la Nièvre et l'Aube, à leur tour, rejoignent la liste dès ce soir minuit des départements où il est interdit de sortir d'un rayon de 10 km autour de chez soi, où les commerces ferment et où les lycées passent en demi-classe. Le gouvernement appuie sur le frein, mais pas jusqu'à l'arrêt. Un choix que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a défendu hier, Élodie Forêt.
Mis sous pression par des scientifiques et des adversaires politiques, le gouvernement résiste. Pas question cette semaine de bouger les curseurs. Il est trop tôt, justifie Olivier Véran, pour mesurer l'efficacité des mesures en vigueur depuis le week-end dernier. Le ministre de la Santé s'est donc attelé à défendre chaque restriction, chaque décision, la territorialisation, le télétravail, le couvre-feu qui empêche les soirées et les dîners. Défendu aussi l'ouverture des écoles, la fermeture est un dernier recours, a redit Olivier Véran, citant Nelson Mandela. Là, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Seule annonce dans ce domaine, le gouvernement travaille à des protocoles renforcés qui pourraient bientôt être mis en place dans les établissements scolaires. Le ministre de la Santé qui a enfin balayé le débat sémantique sur le terme de confinement. Il n'y a pas un confinement, il y a 50 nuances de mesures. Rappelant que tout est évidemment évolutif, ne fermez la porte à rien pour ne pas risquer de se dédire.
Car rien que dans la région parisienne, le taux d'incidence frôle les 600 cas pour 100 000. Une région où à terme, il faudra sans doute déprogrammer 80% des opérations non-Covid dans les hôpitaux. Et cette stratégie de confinement partiel, cette évidence, ça ne suffit plus, alerte l'épidémiologiste Catherine Hill.
Je trouve qu'on va assez droit dans le mur, vraiment. Il y a de plus en plus de gens tous les jours qui arrivent en réanimation, donc ça va devenir totalement intenable. On ne pourra plus prendre les patients qui ont autre chose que le Covid en charge. C'est complètement fou cette histoire. Il faut bien comprendre que la première vague a été très rapidement contrôlée par un confinement ferme. Et donc, ça n'a pas duré longtemps. Et là, ça augmente beaucoup plus lentement, mais tout aussi fermement. Et en même temps, je ne pense pas que les médecins soient disposés à retarder toutes les autres prises en charge pendant aussi longtemps. Olivier Véran a dit « le temps joue en notre faveur, il nous rend plus forts ». Et je pense que ça, c'est pas juste. Le temps ne joue pas en notre faveur et le temps cause plus de morts. Il y a eu énormément de morts depuis le 1er janvier. On essaye de camper sur cette position de « on ne confine pas, on ne ferme pas les écoles », alors que la situation est absolument dramatique.
Le virus qui circule dans les cours de récré, une centaine d'écoles, près de 3000 classes fermées, un taux d'incidence qui grimpe chez les élèves. Avoir un collégien ou un lycéen à la maison fait grimper le risque de 30% selon les scientifiques. Et ils ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d'alarme. Les syndicats, le SNUIPPFSU qui va déposer prochainement un préavis de grève. Les politiques aussi, il faut fermer les écoles, dit aussi bien la socialiste, maire de Lille, Martine Aubry, que le LR François Baroin, maire de Troyes. Les protocoles sanitaires vont être renforcés dans les écoles, a promis Olivier Véran, mais il n'a donné aucun détail. L'espoir est là, rassure hier Emmanuel Macron, celui de la vaccination. On passera un premier cap mi-avril, promet le chef de l'État. Hier soir, la Commission européenne a aussi décidé de mieux contrôler ses exportations, bloquées pour l'AstraZeneca, tant que le laboratoire n'aura pas rattrapé son retard. Il manque 90 millions de doses sur ce premier trimestre dans l'Union européenne.
Il est 7h06, on parlait à l'instant des écoles, on sait aussi, Hélène, que les contaminations se font beaucoup au travail.
Et depuis la semaine dernière, le gouvernement le répète, il faut que les entreprises passent massivement au télétravail, contrôle et sanctions renforcées. Hélène Filly a pu suivre, et c'est rare, une opération de grande ampleur hier matin dans le quartier de la Défense près de Paris. Son reportage.
Il y a un peu de monde ce matin sur le parvis de la Défense.
Je ne dirais pas que c'est la foule des grands jours, mais il y en a quand même un peu plus que... Évidemment, pendant le premier confinement.
Jean-Noël Ponzevera fait partie des 12 inspecteurs du travail sur le terrain aujourd'hui.
À partir de l'automne, il y avait quand même moins de monde que maintenant, clairement.
Il y a vraiment de quoi renforcer les contrôles, alors.
Exactement.
Nous
sommes de l'inspection du travail.
Contrôle surprise chez Enedis, 12% de l'effectif seulement sur le site. Vérification, étage par étage. Dans ce bureau, 3 salariés sont là sur les 8 présents d'habitude. L'inspecteur interroge.
Aujourd'hui, vous êtes là pour quelle raison? Parce que vous souhaitez bénéficier du jour flottant pour les salariés pour être moins isolés. Monsieur le DRH.
Les consignes, c'est que...
Olivier Duhagon, DRH de l'entreprise.
Quand les gens reviennent, ils ne reviennent pas tous simultanément, sinon ça ne sert à rien.
C'est toujours une petite surprise de voir l'inspection du travail débarquer comme ça.
Je veux dire qu'on s'y attendait aussi peut-être un petit peu. Oui, c'est normal que dans la période actuelle, il y ait des contrôles.
Un peu plus loin, dans une salle de réunion.
Ce n'était pas une signalétique pour dire que l'agence de cette salle de réunion, c'est...
Non, ce qu'on a fait,
non,
c'est qu'on
a... Vous condamnez des fauteuils, ouais. Si je suis bête et méchant, je peux dire qu'on peut faire une réunion à 7 voire 8. Et comme il faut respecter 4 mètres carrés en moyenne par participant, on n'y serait pas, quoi.
Mais l'entreprise reste bonne élève. Seule une société sur la vingtaine inspectée devrait faire l'objet d'une mise en demeure.
Hélène Filly, avec les interdictions de se déplacer désormais dans 19 départements, on s'y attendait. La SNCF réduit la voilure à partir de lundi prochain. 6 TGV sur 10 entre Paris et le Sud-Est, 5 à 6 sur 10 sur l'Atlantique. Et le trafic baisse encore plus avec le Nord, compté 3 sur 10. Il s'est connecté, lui, dans la soirée au 27 de l'Union européenne, Joe Biden, le président américain, qui sortait tout juste de sa première conférence de presse à la Maison-Blanche, un peu plus d'une heure face aux journalistes pour afficher ses objectifs ambitieux. Grégory Phillips à Washington pour Inter.
Évidemment, le style n'a rien à voir avec celui de Trump, qui au même endroit, dans la East Room de la Maison-Blanche, profitait de ses conférences de presse pour vitupérer contre les journalistes qui l'interrogeaient. Biden est beaucoup plus calme, il prend les questions dans l'ordre fixé par ses équipes de communication. Et surtout, il déroule le bilan de ses 60 premiers jours de mandat, le plan de sauvetage de l'économie à 1900 milliards de dollars et la campagne de vaccination qui s'accélère encore aux États-Unis avec un nouvel objectif qu'il fixe, 200 millions de doses de vaccins administrées avant la fin avril. En revanche, le président américain paraît beaucoup plus hésitant sur les sujets qui fâchent. Le contrôle des armes après la tuerie du début de la semaine dans le Colorado ou encore l'afflux de migrants à la frontière mexicaine et les conditions déplorables dans lesquelles ils sont accueillis. Ça arrive chaque année, constate Biden. Également très évasif quand on lui demande comment il compte régler la question des inégalités raciales. Interrogé enfin sur la prochaine présidentielle de 2024, Joe Biden annonce qu'il entend être candidat à un second mandat. Il aura alors 81 ans. New York, Grégory Phillips, France Inter.
Enfin, parfois, les conséquences du Covid sont inattendues. Les confinements ont fait baisser la pollution de l'air. 38 000 morts en moins l'an dernier en Europe, selon des chercheurs. 3 500 en France.
Il est 7h10, le cannabis thérapeutique arrive en France.
Du cannabis pour aller mieux. Première ordonnance aujourd'hui au CHU de Clermont-Ferrand, au centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Une expérimentation qui doit durer 2 ans, Véronique Julia, dans 200 centres répartis sur tout le territoire.
3 000 patients pour 5 indications thérapeutiques. Épilepsie résistante, soins de support pour les malades du cancer, soins palliatifs, contractures douloureuses dans la sclérose en plaques, enfin douleurs neuropathiques, c'est-à-dire liées aux nerfs. C'est un patient de plus de 50 ans souffrant de douleurs chroniques invalidantes aux 4 membres ainsi qu'au thorax à la suite d'une chirurgie qui recevra sa première prescription en présence du ministre de la Santé aujourd'hui. Les autres traitements sur lui sont peu efficaces avec des effets secondaires importants. On tente donc en dernier recours cette approche nouvelle pour le soulager. On commencera pour lui avec un cannabis sous forme d'huile comportant surtout du CBD. Si ce n'est pas suffisant, on augmentera au fil des semaines la teneur en THC, la substance psychoactive du cannabis. Car les ordonnances prévues pour 28 jours pourront être adaptées en fonction du ressenti du patient. Elles seront sécurisées et les patients tous volontaires inscrits dans un registre. Ils seront suivis à minima tous les mois pour le renouvellement de l'ordonnance, mais systématiquement revus en centre de référence à l'hôpital pour une consultation longue au 1er, 3e, 6e, 12e et 18e mois. Le cannabis sera au départ sous forme d'huile. Plus tard, au mois de juin, s'ajouteront des fleurs séchées à inhaler.
Véronique Julia. Enfin, les coqs se frottent au chardon ce soir et il va falloir l'avaler tout cru pour triompher. Le 15 de France face à l'Écosse, dernier match du tournoi Destination pour les Bleus avec la perspective de ramener la coupe à la maison. Ce serait une première depuis 2010. Sauf que l'exploit n'est pas en option. Il faut 21 points d'écart. Ce qui est déjà gagné, en revanche, c'est la bataille de l'audience. Le rugby va-t-il battre Koh-Lanta sur la chaîne concurrente, comme la semaine dernière avec The Voice? Les jeunes en première ligne. Reportage Fanny Lechevestrier.
Quand on interroge ces jeunes parisiens, pourtant pas baignés dans la culture rugby, il n'y a aucune hésitation sur leur programme de ce soir.
Non. Moi, je suis pressé de voir le dénouement de ces 6 nations.
On sera devant la télé, direct.
Avec une petite bière.
Ce qui les a séduits, nous explique-t-il, c'est d'abord la jeunesse du 15 de France à laquelle ils peuvent s'identifier.
Pour nous, elle a à peu près notre âge, du coup, c'est un peu plus joli qu'avant. Oui.
On tente toutes nos chances et il y a le French Fair qui revient.
Un peu de rafraîchissement, ça fait du bien.
Avec ces bleus, rois du suspense, ils ont aussi l'impression d'être embarqués dans une aventure entre amis ou en famille, comme samedi dernier face aux Gallois.
On était en sueur.
C'était stressant. Il fait vibrer le canapé, mon frère, mais...
C'était incroyable.
La soirée, ça a lancé la soirée.
On devait rentrer tôt, on est rentré tard.
Avec une équipe française qui suscite même à nouveau des vocations, comme chez Faustine et Jeanne.
En fait, de regarder ça donne envie de jouer, je trouve.
Bah, en fait, je m'y intéressais pas trop, mais depuis que j'ai commencé à regarder, je trouve qu'on a l'air d'avoir une très bonne équipe. On a l'impression qu'ils sont tous bien connectés les uns avec les autres.
C'est du bonheur.
Et ne leur parlez pas d'histoire de gaufres ou de sorties non autorisées, eux en ont cure pour parodier l'émission concurrente de ce soir. Leur sentence est irrévocable. Ces bleus-là, ils les aiment comme cela.
Et pour faire vibrer le canapé, rendez-vous ce soir, 21h, France-Écosse.
Merci beaucoup, Hélène. Le Zoom dans 3 minutes. Hommage à Bertrand Tavernier, le fou de...